France Inter.
Bonsoir, nous sommes en direct de la Cité de la Musique et de la Danse de Strasbourg. C'est le dimanche soir, l'actualité est lourde, alors on vous propose d'alléger la soirée. On vous promet 2 heures de joie pour repousser très loin le lundi matin. François, notre réalisateur, tu peux démarrer le starter. Top antenne.
En public et en direct de la Cité de la Musique et de la Danse de Strasbourg, vous allez vivre le grand dimanche soir.
Parce que c'est notre projet.
2 heures de rire, d'émotion et de musique avec Juliette Arnaud, Éric Lompré, Chewbacca, Wally Dia, Laëlia Véron, Toulis, Laurence Bibot et Frédéric Brunet. De la satire politique, la quitte de la rigolade, celle qui a la vanne salée, mais toujours avec le cœur tendre, votre petit bretzel à nous, Charline Vanhoenacker.
Le grand dimanche soir. Sur France Inter.
Bonsoir la France Inter, bonsoir Strasbourg. Ça me donne envie de dire bonsoir à toute l'Europe. Ça va être trop long. C'est la Belge en moi qui parle. Oui. Parce qu'en France, j'ai parfois l'impression que les élections européennes, certains voudraient en faire un test national. Quand un politique hurle « La République, c'est moi !» faut pas s'étonner qu'après, des Français pensent que l'Europe, c'est eux. Yeah. Alors au RN, c'est pire. Hein. Pour eux, l'Europe, c'est la banlieue de la France. Alors je trouve que parfois, vous les Français, quand même, vous utilisez les européennes pour se défouler sur tout ce qui ne va pas en France. C'est-à-dire que pour se calmer les nerfs, il y en a qui cassent des assiettes, les Français, ils votent aux européennes. Et après, on me demande encore pourquoi je reste dans ce pays. La fascination, les amis. La fascination. En plus, j'ai noté que vous aimiez bien voter pour faire barrage à l'extrême droite. Alors là, allez-y, faites-vous plaisir, hein, parce qu'en Europe, l'extrême droite, elle est vraiment partout. Hein. Enfin, ici, on est à Strasbourg. Vous êtes très impliqués. Je suis sûre que vous connaissez par cœur le nom de nos députés européens. Oui, vous les croisez dans le tram en partant au boulot, non? Alors, il est sympa, Christophe Groudler? Je n'invente pas, il existe. Pourtant, vous devriez vous intéresser à l'Europe. Vous avez la chance d'avoir Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires européennes, bon sang. Et les jeunes! Les partis font des efforts pour les encourager à voter. Glucksmann, il est sur les réseaux sociaux. Les Verts, leur thème parle à la jeune génération. Et à Renaissance, pour dynamiser leur liste, ils vont intégrer François Bayrou. Chacun ses techniques, hein, je ne juge pas. Macron, quand il veut redynamiser, il pense Bayrou. Quand il a un coup de mou, il boit une tisane pour se donner du peps, vous voyez. Alors en Belgique, nous, pour attirer la jeunesse, c'est simple, on l'oblige à voter à partir de 16 ans. Voilà. Oui, on oblige les jeunes à voter, oui, mais en France, on les oblige à chanter la Marseillaise en faisant des pompes au SNU. Chacun sa méthode, hein. Donc je propose ici à Strasbourg de lancer un appel à la jeunesse européenne pour qu'elle s'exprime dans les urnes le 9 juin. Moi, tu me donnes un pupitre, un micro à Strasbourg, je me sens pousser des ailes. Hein. Jacques Delors, sors de ce corps. Alors je me lance dans cet appel du grand dimanche soir à la jeunesse européenne. Certes, l'Europe est surnommée le vieux continent, mais faisons en sorte qu'elle ne devienne pas le continent des vieux. Voilà, moi j'adore célébrer l'Europe. C'est l'occasion pour moi de crier en toute détente « Vive Bruxelles !»
Dites donc, mais on est bien là, je trouve qu'on est bien.
C'est vrai qu'on est bien, on est bien.
Ah, oui,
je sais pas, c'est lié à quoi.
Ça doit être la ville.
Non. ça peut pas être Strasbourg qui fait cet effet là, non.
Peut-être que c'est l'effet du printemps.
Non, mais oui, je vois ce que tu veux dire, Fred. Mais moi, c'est un truc mieux, c'est la béatitude, là.
Non,
moi j'ai une théorie, là, c'est parce qu'on a fait la fête hier soir et qu'on a bu énormément d'alcool.
Non, mais ça peut pas être ça, sinon on serait BA toute l'année.
Ouais, ouais non, c'est pas ça.
Non, mais moi ça me ferait un vrai truc de bien-être, genre, bah, tu sais, mais comme si je sortais d'un massage.
Ouais, mais moi je me demande si au lieu de chercher un truc en plus, on peut pas se demander si c'est pas parce qu'il y a un truc en moins.
Oui. Oh, mais cherchez oh là pas, là. Cherchez pas. Ouais. C'est parce que Guillaume il est pas là. Pas de micro-trottoir.
Ah, mais ça, c'est oh, bien. Là, là. On n'ira pas à la police.
Oh. Oh, c'est bon, c'est bon. Allez, on poursuit dans le bien-être avec de la musique, bien sûr. De la musique live. Elle vient de là, elle vient de Strasbourg, Djoubaka.
Eh oui, tout a commencé en 2010 en one-man band sous la houlette de Victor. Alors, je vais essayer de bien dire son nom. Sprovazzo, ici à Strasbourg. Et depuis, il s'est passé des choses dans ce bayou local. Dirty Deep, c'est le groupe, est devenu trio. Et il y a quelques mois, on avait la joie de les retrouver avec leur nouvel album Trompe-l'œil. Voici une ode à la résilience, Broken Bones.
Trompe-l'œil qui est disponible le chanteur Victor Sbrovazzo avec l'harmonica et la guitare, Geoffroy Soupe à la batterie, Adam Lanfray à la basse. Ils seront aux Eurockéennes de Belfort le 5 juillet et ils nous promettent une reprise en deuxième heure de cette émission. Le groupe Dirty Deep avec nous et merci également à Alexandre Martin et Stéphane Foulon à la prise de son et au mixage de l'émission ce soir à Strasbourg. Et merci à la ville et à vous, Strasbourgeois, de nous accueillir si chaleureusement chez vous. En l'absence de Guillaume, qui ne siège pas parmi nous, le mec fait son député européen, le journal vous est co-présenté par Aymeric Lompré.
Quand j'ai entendu Bruno Le Maire, c'est open bar, tout est gratuit, il faut que ça cesse d'être tout gratuit pour les gens. Qui prononce ces mots-là? Ce sont à nouveau des gens qui ont vécu et vivent encore sous la mamelle de l'État et qui ont tout gratuit, eux.
Le journal des bonnes nouvelles.
J'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes.
Et on commence avec la principale bonne nouvelle de cette édition.
Oui, cette nuit, nous sommes passés à l'heure d'été. Nous avons donc perdu une heure de sommeil.
On a perdu une heure, donc c'est quoi la bonne nouvelle?
On passera une heure de moins à Strasbourg.
Oh, vous êtes tellement prévisible. Vraie bonne nouvelle, demain, c'est jour férié, c'est le lundi de Pâques.
Oui, et cette année, c'est un peu spécial, Charline, puisque les enfants auront l'occasion de chercher les œufs, mais aussi les droits des chômeurs.
Oui, Gabriel Attal les a bien, bien cachés, on va beaucoup s'amuser.
Oui, en effet, Charline, Gabriel Attal a annoncé une nouvelle réforme de l'assurance chômage, assortie d'une baisse de la durée d'indemnisation.
Et c'est censé être réjouissant, ça ?
Oui, absolument, Charline. Ça va inciter les chômeurs à retrouver un emploi. Fini l'assistanat.
Ouais. Et depuis quand vous êtes de droite ?
J'évolue, je vieillis, je gagne en maturité, Charline. Ouais. Parmi mes futurs projets, aider un homme politique de premier rang à écrire son livre. C'est ainsi que les carrières évoluent.
Je note. Et puis une nouveauté, chaque mercredi, le Premier ministre répondra seul aux questions à l'Assemblée que les députés adressent au gouvernement.
Ouais, donc résultat, les ministres, ils servent plus à rien.
Voilà.
Et donc c'est quoi la nouveauté ?
Ah oui, en effet, désolé. Voilà. On va enchaîner. Bonne nouvelle, Renaissance lance une opération pour encourager la participation aux élections européennes le 9 juin et ça s'appelle Neuf de Pâques.
Oh. Alors visiblement, McKinsey, ça coûtait trop cher, du coup ils ont engagé Frédéric Fromet.
Et autre bonne nouvelle chez Renaissance, l'ex-ministre des Transports Clément Beaune devient porte-parole de la tête de liste aux européennes.
Attends, mais vous annoncez ça comme ça, vous?
Oui.
Vous avez un scoop de malade et vous dites comme ça, comme si vous n'avez rien à foutre.
Et vous en avez quelque chose à foutre, vous?
Non.
Valérie Pécresse a déclaré que le prix du ticket de métro avait été fixé à 4 € pour les JO, afin que personne n'en achète.
Attends, mais Charline, il y a quand même beaucoup plus simple à faire pour que personne n'en achète.
Il fallait faire quoi?
Ouais, il suffisait d'imprimer Pécresse 2027 sur les tickets, et là, c'est prouvé, personne n'en veut.
Dites donc, vous êtes pertinent, en fait, hein.
Oui, merci. Bon. La numéro 2 sur la liste du RN aux européennes, ouais. Malika Sorel a reconnu avoir échangé des SMS avec Emmanuel Macron dans le but d'obtenir un ministère.
Oui, donc quand Macron ne répond pas aux SMS, les gens passent au RN. Fonctionne vraiment bien, ce barrage. Alors, lors d'un discours, le président brésilien Lula a confondu Emmanuel Macron avec Nicolas Sarkozy.
C'est fou de se dire que Lula a une meilleure analyse de la politique française que Christophe Barbier.
Et, oui. Et puis, gaspillage alimentaire. 1 milliard de repas.
Un milliard ?
Un milliard !
Combien, Charline ?
1 milliard !
Nom de Dieu !
Sont jetés chaque jour dans le monde.
C'est honteux ! C'est honteux, Charline ! Alors qu'il suffit juste de mélanger tous les restes du repas pour faire une belle flamencuche.
Ah non, c'est divisé. J'ai entendu des rires, c'est divisé. Alors, il est temps de retrouver notre spécialiste en plateau et cette semaine... Quelle chance, c'est Douli. Alors Douli, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui?
Oui, Charline, aujourd'hui nous allons parler logement, figure-toi.
Ah ben, très bien, très bien.
Alors, quand vous vivez en colocation, il est important de bien choisir son colocataire. Je développe, posez-lui plein de questions avant de vous engager, comme est-ce qu'il prend des douches tous les jours? N'oublie-t-il pas de débrancher l'appareil à raclette? Est-ce qu'il crie « J'ai rien entendu !» en permanence?
Attendez, Vous n'êtes pas en train de régler vos comptes avec votre nouveau colocataire Bricompré par hasard?
Non, non, non. Ça n'a rien à voir, Charline.
Très bien.
Je donne des conseils utiles conformément à notre mission de service public.
C'est beau.
Je continue. Demandez-lui aussi pourquoi aller en Grèce pour se mettre des nouveaux cheveux si c'est pour les semer partout dans l'appartement.
Ça va, c'est bon, ça va, Douli. Eh, c'est de la vie privée, Douli.
Stop, 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 ça va, bon. J'en reviens pas de ce que je vais dire, là, mais Guillaume Meurice me manque.
C'est dit. Merci, Douli. Merci, Émeric.
Eh oui. Après avoir présenté Groland, eh bien, maintenant, c'est le journal de France Inter, carrément. C'est Douli, quelle ascension.
Wow.
En tout cas, prochain point fort sur l'information avec le journal de la rédaction à 19h. Juliette Arnaud, ma chère Juliette, cette semaine, vous avez choisi de vous replonger dans un polar fameux de 1940, écrit par William Irish et qui s'intitule « La mariée était en noir ». Super, mais pourquoi? Why? Quel lien avec l'actualité, s'il vous plaît, Juliette, mon petit pinson?
Et ça, c'est pas moi qui l'ai écrit. Il y a un mois, elle était ici, à Strasbourg, face au Parlement européen, Yulia Navalnaya, avec son visage inoubliable, un visage hanté de veuve, une apparition quasi fantomatique. Elle exhortait les élus, elle leur disait, pour vaincre Poutine, combattez son réseau criminel. Elle s'engageait elle-même à poursuivre l'œuvre de son mari. Et il m'a fallu un peu de temps pour retrouver dans ma grosse mémoire pleine de livres une autre veuve. Ah mais bordel, oui, cette veuve-là, elle hante ce polar. Oui, à un moment, il y a un des témoins qui dit d'elle qu'elle a une bouche à embrasser, mais des yeux froids. Moi, ce dont je me souvenais surtout d'elle, c'était sa détermination implacable et totalement mystérieuse jusqu'aux dernières pages du livre. Veuve, on le sait, on le devine dès le titre, la mariée était en noir. Dans les premières pages, on est avec elle qui s'installe dans un meublé. Elle n'a pas donné sa vraie identité et elle est en train de brûler des photos. Et puis elle va à une fenêtre et il y a cette phrase prémonitoire qui clôt le chapitre. Elle dit « Elle semblait se pencher sur la ville comme pour la menacer. » De fait, la menace vague se précise. Elle s'insinue dans une fête de fiançailles. Tous les hommes, même le fiancé, la remarquent, elle est fort belle, elle ne parle à aucun d'eux, elle les esquive, elle rejoint le fiancé qui à un moment est scellé sur un balcon, son foulard à elle s'envole, il se penche pour le rattraper, elle le pousse, il tombe, il meurt. Elle disparaît. La police arrive, personne n'a assisté à la scène, personne ne connaît cette femme. Bien que tout le monde l'ait vu, le policier chargé de l'affaire note un point d'interrogation dans son calepin. Et puis dans les chapitres qui suivent, d'autres hommes qui semblent sans rapport les uns avec les autres sont assassinés. Il n'y a pas de rapport sauf qu'il y a toujours une femme alentour. Une fois elle est blonde, une fois elle est brune, elle est rousse aussi, ses yeux étaient-ils verts, étaient-ils gris? Grande, portait-elle des talons? Le policier au calepin farci de points d'interrogation est convaincu, lui, que c'est la même femme. Et nous, lecteurs et lectrices, on devine que c'est elle. Et comme dans Columbo, et ça, Irish l'invente 30 ans avant, on assiste au meurtre, on connaît la meurtrière, mais on ne sait pas ses raisons et si le policier saura l'arrêter. Et puis, il y a son catalogue de victimes, toujours des hommes, médiocres, chacun à sa façon. Un fiancé content de lui, un père de famille incompétent, un peintre obsessionnel, un barman qui rêve à des femmes qui n'existent pas. Mais quoi quand même, on ne tue pas les hommes parce qu'ils sont médiocres, n'est-ce pas? Ou alors sinon c'est un métier à plein temps. La mariée était en noir. La tueuse a une bonne raison. Ou alors un fantôme de bonne raison. Vous verrez. Merci, bisous, merci.
On reste dans le monde du polar qu'on va transposer au théâtre. Un théâtre pour les oreilles. Alors imaginez. Imaginez une scène de crime. Ici même à Strasbourg. Et la victime, allongée, inerte sur le sol, est incarnée par Frédéric Fromet. Autour du corps, imaginez aussi des forces de police, incarnées par Juliette et Laëlia, tandis que Douli fait office de témoin. Bonjour, commissaire Arnaud.
Adjudant Véron, bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est?
Eh ben, on l'a trouvé ce matin, le corps de l'Union européenne. Sans doute tombé de ce gros bâtiment en verre, là, derrière vous.
Le Parlement européen?
Ah, c'est ça, ce machin? D'accord, je vais mener des investigations.
Bien, bien, bien. Dites donc, le corps est encore chaud?
Tu peux arrêter de me faire des guilis?
Non, merde, Fred, tu sors pas de ton personnage. Bien, 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 bien. Qui a découvert le corps?
Au niveau des investigations, nous savons que c'est une jeune fille de type féminin.
Bien, amenez-la-moi.
Oui, chef, mais avant, je dois vous prévenir que mes investigations m'amènent à penser qu'elle est dans un état d'ébriété avancé.
Il est encore long, ce sketch, parce que je commence à avoir des crampes, moi.
Silence, cadavre. Bien. Comment vous appelez-vous ?
Je m'appelle Greta Müller-Schmidt-Schneider.
Comment ça s'écrit, ça ?
G-R-E.
Bon, allez, c'est bon, on n'a pas le temps. Je vais vous appeler Gregre. Alors, Gregre, dites-moi comment vous avez découvert le corps.
Eh ben, j'allais chercher mon petit déjeuner, et là, paf, je suis bêchée.
D'accord. À cause du corps, Gregre ?
Non. À cause de l'alcool.
Ouais, bien sûr.
Et en me relevant, qu'est-ce que je vois ?
Le corps ?
Non. Une bouteille de schnapps à peine entamée. Je fonce dessus et là, paf, je trébuche.
Toujours pas sur le corps, j'imagine ?
Eh ben là, si.
Bien. Alors, quelles sont les pistes pour le moment ? Adjudant Véron.
Nos investigations nous laissent penser à un suicide, chef.
Mais enfin, pour quelle raison l'Union européenne se serait-elle suicidée ?
Pour des raisons sentimentales. Elle venait de se faire larguer par les Anglais.
Bien. Enfin, c'est pas suffisant. Il faut un motif plus fort quand même pour imaginer un suicide.
Ce ne sont pas les seuls. Hein. Tous les Européens se replient sur eux-mêmes ces derniers temps et envisagent de la quitter.
Bien. Alors, creusons la thèse du suicide.
Ah, mais moi, je sais pourquoi elle s'est suicidée. Ouais, ça fait plus de 25 ans qu'elle vit à Strasbourg, quand même, attends. Mais attendez, calmez. Non, arrêtez, c'est pas moi, c'est le sketch. C'est pas moi qui ai écrit le sketch.
Bien.
Enfin.
Bien.
Non, mais en fait, j'étais pas mort.
Oh, c'est donc ça, un sursaut européen.
Staying alive.
Commissaire Arnaud, mes investigations m'amènent à penser que le mort n'est pas mort.
Pas encore, adjudant Véron. Nous verrons le 9 juin.
Wow.
Merci à Juliette Arnaud et toute sa petite troupe. Oh là là, on a pris une claque d'acting. Hein. Je pense que Walidia, vous avez pris une claque d'acting. Vous avez
là,
pris des notes.
Là, je m'en remettrai à peu près lundi matin. Bon.
Nous sommes en direct de la Cité de la Musique et de la Danse à Strasbourg. Donc là, je dois récupérer toutes vos conneries. Cette magnifique ville de Strasbourg.
Toutes nos conneries, Charline, vraiment.
Voilà, merci vraiment de nous accueillir, hein, avec autant de tolérance. Merci. Mais merci, c'est vrai. On sent bien chez vous, vraiment. Ou alors c'est parce que Guillaume Meurice n'est pas là. Je sais pas, on sent bien chez vous. Djoubaka,
oui.
Cette émission fait la part belle à la musique. Mmh. Et chaque semaine, vous choisissez une chanson dont le texte est engagé et le contexte, bah, vous le racontez. Et ce soir, le tube dont on va parler, c'est celui-ci.
Président de la République, couleur rose à des reflets bleus.
Ça, même Émeric Lompré, il connaît ça.
Ouais.
Vous êtes réveillé ?
Oui, je voulais réveiller là. Ouais.
Mais il connaît par cœur, il la chante aussi.
C'est vrai ?
Oui.
Bon, alors qu'est-ce qu'il essaie ?
Stéphane, j'adore. Hein ? Stéphane.
Allons-y.
Qu'est-ce qu'il essaye de nous dire, Alain Bachung, mon cher Djoubaka ?
Eh bien, vous savez, il y a des moments où on est désabusé des promesses politiques. Des gus qui retournent leur veste au moindre coup de vent. On l'aime, mais parfois, elle nous fatigue, la République. Ainsi que le président dans son palais doré qui n'a jamais fait rêver. Et résident de la République, cette chanson d'Alain Bachung, c'est un texte de Gaëtan Roussel, divise les fans. Alors il y a des oreilles qui l'écoutent comme un testament et d'autres comme une sorte de profession de foi. Alors moi je préfère vraiment le côté politicard de l'affaire, l'autre est trop triste. 2007, vous vous souvenez, le Parti Socialiste tangue sur sa droite. On dit que la gauche caviar est définitivement passée de l'autre côté. Alors il le chante, Bachung, hein. La rose a des reflets bleus, bah, comme ceux de la couleur de l'UMP. En gros, tout est dit. Bachung, lui, il est né à Paris, mais il a grandi pas loin d'ici, j'espère que je vais bien le dire, hein, à Wingersheim, et sa mère...
Alors, apparemment...
Comment on dit ? Très bien.
Wingersheim.
Ils ont très bien dit. Donc sa mère Elle était ouvrière dans l'usine Renault de Boulogne-Billancourt, à côté de Paris, avant de se marier avec un boulanger du coin, enfance dans un milieu modeste, à la Cambrousse. Et il fait partie de ces gens qui n'imaginaient pas être considérés comme des pions. Naïfs de tous les pays, faites comme moi, unissez-vous. Parce que bon, un jour, il dit, je sourirai moins, jusqu'au jour où je ne sourirai plus. Dans la chanson, et il y a cette allusion mystérieuse, des atomes, fais ce que tu veux. C'était quand Ségolène, elle avait dans son programme d'aller refaire un peu de centrale nucléaire. Donc l'ironie du retour au nucléaire, adieu les énergies vertes, et c'est pas facile d'être citoyen. Allez, envoie François.
Un jour je t'aimerai moins, jusqu'au jour où je ne t'aimerai plus. Un jour je sourirai moins, jusqu'au jour où je ne sourirai plus. Un jour je parlerai moins, jusqu'au jour où je ne parlerai plus. Jusqu'au jour où je ne courirai plus. Hier on se regardait à peine, c'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la République, le rose a des reflets bleus. Résident, résident de la République, des atomes, fais ce que tu veux. Peut-être le jour où tu ne me parleras plus. Un jour je voguerai moins. Peut-être le jour où la terre s'entrouvrira. Hier on se regardait à peine, c'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la République, où le rose a des reflets bleus. Président, résident de la République, chérie des atomes, fais ce que tu veux.
Président de la République, Alain Bachung, c'est le nouveau tube pour la playlist politique de Djoubaka. Merci, Djoub.
Eh ben, de rien.
Et tiens, je vais faire une petite interrogation surprise à la Elia Véron. Eh oui, Bachung dit un jour je courrai moins et puis un jour je courrai plus.
Oui.
Ouais, alors ça.
C'est la conjugaison du futur qui est régulière et joue avec les conjugaisons. Il y avait Renaud qui avait fait ça aussi, mm-hmm. Quand le vent soufflera, je repartira et ouais. Tout. Ben, c'est la liberté, hein, créatrice.
La licence poétique?
Tout à fait. On peut avoir aussi. Mais j'aime bien vous me demander ça, genre on peut, genre je suis l'Académie française, Charline, enfin.
Oui, pourquoi vous me demandez pas à moi?
Bah, je vous le demande, on peut?
Ouais, on peut, ouais. Je sais pas écouter la question, mais.
Réveillez-vous, Émeric Lomprey.
Oui.
Allez, on est en direct de la Cité de la Musique et de la Danse à Strasbourg. Il est 18h39. Ça, c'est la même chose dans toute la France, hein, si je comprends bien. Et sur toutes les radios même, en fait. Hein. C'est un truc que je voulais vérifier. De quoi rit-on en Alsace? Ça, c'est la question. Alors, on a invité une jeune humoriste du CRU pour le savoir. Elle est aussi chroniqueuse sur la radio locale RBS, 91.9 FM à Strasbourg. Et elle est des nôtres, elle va faire une chronique comme les autres. Et au bout de 3 minutes, vous entendrez ceci, si ça dépasse un petit peu. Voilà, ça c'est aussi le signe de son entrée sur le ring. Voici dans vos oreilles et sur cette scène, Cyrielle Knöpfel.
Bienvenue Cyrielle. Merci. Merci, waouh, quel accueil. Merci Strasbourg. Merci beaucoup, eh ben, ça fait vraiment plaisir cet accueil, merci, parce qu'en plus moi je pensais pas du tout être là ce soir, je ne devais pas être là ce soir, à la base j'avais un truc bien plus chiant de prévu, je devais faire un stage en racisme, sexisme, patriarcat et homophobie.
Ah, c'est bien ça.
Enfin, ce que ma mère persiste à vouloir appeler un repas de famille. Vraiment, j'en peux plus. Vraiment. Le fameux repas de famille, vous savez. Alors moi, j'avais juste envie de lui dire que un repas de famille, moi, dans mon idée, c'est pas quelque chose où j'en prends plein la gueule. C'est plutôt quelque chose où je m'en plais plein la panse. Pourtant, j'essaye vraiment d'éviter tous les sujets qui fâchent. Hein, vraiment, je ne parle pas religion, je ne parle pas politique, je ne parle pas des gros conflits, notamment le conflit Inès Rego, Natacha Saint-Pierrien. Oh non, pas de sujet trop touchy, vraiment pas. Non, non. Du coup, qu'est-ce qu'il leur reste? Mon célibat. Oui, oui, ça les anime beaucoup. Ma mère, notamment, me juge hein, beaucoup, elle est là, oh là là, ben c'est pas grave, tu sais, à la longue, chaque peau finit par trouver son couvercle. Oh. Ouais, je dis, oh, tu sais, maman, moi, du moment qu'on fait sauter l'opercule de temps en temps, franchement, ça me va. Hein. Et mon beau-frère apprécie, mais aussi, mon beau-frère essaie de me donner des conseils. Hein. Mon beau-frère est là, mais sort un peu, fait des rencontres, les phallus ne poussent pas sur les arbres. Ah. Je dis, ben ça c'est sûr, sinon je serai la reine de la Croix-Branche. Et puis ensuite, il s'attaque à ma carrière. Hein. Il me dit, mais enfin, Cyrielle, cette intermittence-là, ça suffit. Tu ne veux pas gagner ta vie. Tu ne veux pas être stable financièrement. Je dis, écoute, je n'ai aucun conseil à recevoir de la part d'une personne qui est autant au féminisme que Aymeric Lompré est à l'hygiène de vie. Vraiment. Mais après, c'est vrai que je suis pas hyper stable financièrement. Ça, faut que je leur laisse. Hein. Je le vois, il me le fait bien remarquer. En plus, quand j'arrive chez eux, hein, justement, pour dîner. Hein. Donc, quand ils m'accueillent dans leur grande maison avec leur grand jardin. Non, une fois, je lui ai dit, t'as pas une serviette? Il m'a dit, si, si, bien sûr, dans la buanderie. Ils ont une buanderie. Il m'a dit, mais tu n'as pas de buanderie, Cyrielle? Mais où fais-tu sécher tes draps? Sur mes portes, Patrick. Comme tous les gens de la classe moyenne. Vraiment, parfois, être une femme célibataire de plus de 30 ans dans un repas de famille, c'est un petit peu comme les acquis sociaux sous le mandat de Macron. Tu n'as jamais de répit, tu peux être bafouée à tout instant. Donc je vous remercie beaucoup hein, voilà, de m'avoir accueilli ce soir et d'être avec vous ce soir. Au moins, j'aurais vraiment passé un grand dimanche soir.
Ouais.
Merci beaucoup.
Merci, merci beaucoup. Cyrielle Knöpfel, rejoignez-nous, chère Cyrielle. Asseyez-vous avec nous pour passer le reste de l'émission ensemble. Merci également à Camille Agnier et Mathéo Yashkin à la vidéo, ainsi qu'à Manon Meyer à la lumière. Cyrielle, donc vous êtes strasbourgeoise?
Oui, tout à fait.
Ok, alors on peut vous suivre sur Instagram.
Exactement.
Cyrielle KPFL.
Oui.
Vous avez simplifié les choses. Voilà.
Oui, vaut mieux.
Et on peut vous retrouver dans les comédie clubs de Strasbourg.
Tout à fait.
Et il y en a plusieurs, il y en a pas mal.
Il y en a de plus en plus.
Ouais. Ah, ouais. Chouette. Par exemple, à la Péniche Mécanique.
Exactement, le stand-up mécanique à la Péniche Mécanique, ouais.
Ouais.
Okay. Tous les troisièmes jeudis du mois. Voilà.
Allez, voilà. Merci, Cyrielle. On passe à la page culture de cette émission en direct de Strasbourg sur France Inter. Elle a carrément eu droit à une pleine page dans le journal Le Monde ce week-end. Carrément, ça se la pète. Je vous dirai pourquoi après sa chronique. Elle est bien sûr maîtresse de conférences à l'Université d'Orléans. Elle parle d'un thème qui, moi, me fascine, m'excite, je dirais. C'est très gênant, je sais, mais c'est comme ça, la linguistique, la phonétique. Voici Laëlia Véron. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, Charline, je vais vous parler d'un seul mot, mais c'est un mot très employé en français, le mot « oui ». Et oui, on croit souvent que « oui » ne sert qu'à répondre à une question, oui ou non, mais en réalité, c'est un mot orchestre qui peut signifier plein de choses différentes. Et pour vous le prouver, j'ai choisi le meilleur des corpus.
Oui.
Oui.
Oui, on adore ça.
Mais
oui. Oui, c'est ça.
Oui.
Donc vous, Charline, mais pour ne pas vous laisser seule et pour que Guillaume soit un peu parmi nous, j'ai un autre corpus. Okay. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais.
Mais,
oui.
Voilà, on peut faire plein de choses pour moduler notre oui. On peut jouer sur l'attaque du mot. Par exemple, moui avec un M initial, c'est oui plus mais. C'est oui à moitié, c'est bof. Alors que oui avec un V initial, souvent prononcé oui, vous voyez, ça va au contraire marquer l'enthousiasme. Mais pour vous donner des exemples bien concrets, on va passer à de l'étude de corpus en interaction. Ah. J'ai pris des extraits d'anciens entretiens avec vous, Charlie.
Oh là là, ceci est mon corpus, prenez-le.
Voilà, c'est ça. Allez, on va commencer. On va écouter un premier oui.
Oui.
Ça, c'est un oui de l'évidence. Vous confirmez simplement. Alors que celui-là,
oui.
Vous voyez, c'est un oui un peu plus marqué, un peu définitif, presque solennel, avec une petite fricative finale d'ailleurs, un wish. Vous l'avez entendu ? On le remet.
Oui.
Mais rassurez-vous, Charline, je n'ai pas trouvé d'exemple de vous disant oui. Hein. Si on continue avec nos oui, là c'est un oui encore plus positif.
Oui, on adore ça.
Là, vous avez vu ce oui, il ne fait pas que valider, mais il renchérit. Et on l'entend pourquoi ? Parce que l'intonation monte et que la voyelle est allongée. Oui ! Et tous ces oui vont vous servir à gérer l'interaction. Par exemple, Charline, dans l'émission, vous avez au moins trois oui. Un oui pour encourager l'autre à poursuivre, comme ce oui de Guillaume.
Ouais.
Vous voyez, ça, c'est un ouais de ouais, vas-y, continue, c'est génial tout ce que tu dis. Mais vous avez aussi un autre oui pour reprendre la parole comme ici.
Mais oui.
Bah oui, c'est ça.
Là, c'est plutôt oui, oui, c'est bien ce que tu dis, mais il faut que je fasse la transition avec la prochaine chronique, là. Et enfin, il y a des oui ou des ouais, souvent en rafale, qui montrent une écoute active.
Oui.
Et vous voyez, là, je n'ai parlé que des oui positifs, mais on peut avoir des oui bien plus complexes. Écoutez-moi cet exemple de Guillaume.
Mais oui.
Ça, c'est un beau ouais. Ironique. Comment ça marche ? L'ironie, c'est le fait de marquer une distance par rapport à ce qu'on dit tout en le disant. Et cette distance, elle peut être marquée par un changement de qualité de la voix. Ce n'est pas tout à fait moi qui dis ça, j'assume pas complètement mon discours puisque je change ma voix, on le réécoute.
Mais oui.
Hein, vous l'entendez bien là. Je précise que dans les interactions de l'émission, puisque vous accueillez la parole de l'autre, vous êtes plutôt sympa, vous avez surtout des oui de validation, mais on a des oui dubitatifs. Hein. Si je fais ouais, d'accord, ou ouais, ça c'est plutôt un oui qui va vers le non. On peut même avoir quelquefois oui, non. Vous savez quand on dit ouais, non, je suis pas trop d'accord en fait. Donc le oui peut signifier plein de choses. Si vous voulez en savoir plus, sachez qu'un doctorant, Yuan Longpeng, travaille à la Sorbonne Nouvelle sur la question. Sous la direction de Florence Lefebvre et Anne Lacheret, on pourra suivre son travail. En attendant, petit jeu d'analyse linguistique pour tout le monde. À vous d'écouter, d'analyser, de compter les oui de Charline dans la suite de l'émission. Vous verrez, il y en aura plein. Et ça vous permettra de donner tort à l'article lunaire d'un journal qui a encore craqué en déclarant que le oui disparaissait et que ce serait d'ailleurs plus ou moins la faute du féminisme. Quel journal ? Quel journal ?
Le Figaro !
Eh oui !
Merci Laëlia Véron ! Ah dites donc, comme quoi on peut passer 3 minutes 30 sur 3 lettres.
Et encore, j'ai coupé plein d'exemples. Hein. Plein de...
Merci pour cette fine analyse, ma chère Laëlia.
J'ai écouté tous vos oui, Charline.
Donc, je signale que vous publiez avec Karine Abiven un essai qui s'intitule « Trahir et venger ». Car c'est un essai sur les récits de transfuges de classe dont vous soulevez les paradoxes. Il a paru aux éditions La Découverte. Et puis ce petit mot pour dire merci à Yann Chouquet, notre directeur des programmes, qui va vers de nouvelles aventures, mais dans la maison ronde, hein, à France Bleu. Il nous a accompagnés dans toutes les émissions qu'on a montées sur cette antenne depuis notre stage d'été avec Visorec, le 75 minutes, jusqu'à cette émission. Excellent connaisseur aussi de l'humour et de la satire, donc on le remercie de nous avoir accompagnés toutes ces années. Yann Chouquet, vous pouvez l'applaudir. On est à Strasbourg, en direct de la Cité de la Musique et de la Danse. Il y a aussi celle qui a joué deux soirs à Strasbourg. Elle est complètement acclimatée.
Je suis strasbourgeoise.
C'est chez vous.
Bien évidemment.
C'est, vous. C'est Douli.
Comment vous, mes petits culs strasbourgeois. Vive le picombert et les bretzels. Alors, mes petits culs, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la peur, sujet qui parlera à tout le monde, vu que personne n'a peur de rien. Non, parce que ceux qui disent « moi, j'ai peur de rien », ils ont peur de tout. Et oui, ce sont les mêmes qui te disent « j'aime pas les pédés », alors qu'on sait qu'ils regardent les chars de la Gay Pride en disant « regardez-moi ça, si c'est pas scandaleux, hein, ces pectoraux bien huilés, ces petits culs tout ronds, là, dans des slips tout moulax. J'ai chaud, Didier. J'aime pas les pédés, mais mon Dieu, ce que j'ai chaud, Didier !» Non, c'est sexy. Non, c'est sexy un mec qui avoue qu'il flippe. Après, faut pas déconner. Moi, j'étais avec un mec qui faisait 1m98 qui flippait quand il voyait trois caïras. Je lui disais, il te sert à quoi, ton 1m98? À aider les vieux à choper le bon PQ? C'est pareil. Non, tu hurles pour une araignée, ça me fait débander. Non. Moi, il y a des trucs qui me font clairement flipper. Par exemple, j'adore nager loin, mais j'ai très peur de tomber nez à nez avec un requin. Et il y a des gens qui te disent, non, mais il suffit de lui coller une golden dans le nez, il s'en va. Vise-lui le nez, vise-lui le nez. Bah oui, évidemment, je suis con, moi. Mais vous savez que les gens qui vous donnent ce genre de conseils ont peur des chats. Mais comme ils savent qu'on colle pas une patate à un chat, ils se permettent de donner des conseils d'aller marbrer un animal que personne n'a dans son salon. N'importe quoi. J'ai très peur du spiritisme aussi. Non, ça me fait flipper. Ah bah c'est chaud. Moi, on m'a raconté des trucs. J'avais les jambes qui tremblaient comme un chien qui chie dur. Hein, vraiment. Attends. Moi, je vois un meuble bouger tout seul ou quelqu'un dans la pièce qui n'est pas censé être là et qui a l'air clairement mort. Mais je me barre. Je cours jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de route. D'où tu tentes de savoir d'où ça vient? D'où tu prends un doliprane en imaginant que c'est la fièvre qui te donne des alus? Ça t'arrive souvent de voir des cadavres qui flottent au-dessus de ton lit? Mais t'es un malade. Vous avez vu Conjuring? Ah non, mais moi, je fous le feu à la baraque. Mais maman, j'ai oublié mon doudou à l'étage. On s'en branle de ton doudou, Dimitri. T'as 8 ans, sois un homme. Non, les gens dans les films d'horreur qui restent dans la maison, mais vous cherchez quoi exactement? À créer un lien avec le défunt? Cher James, je m'adresse à toi qui as zigouillé toute ta famille en 1802. Tu ne veux pas que je vive dans cette maison que tu hantes depuis ton suicide? Très bien, je pars. Laisse-moi juste mettre mes chaussures et quittons-nous, bons amis. Je te laisse le grille-pain et mon CV sur LinkedIn. Non, et alors les gens qui me disent « Je ne suis pas allée à la selle depuis une semaine », vraiment, ces gens m'angoissent terriblement. Non, moi, passer 24 heures, mais je me fais un lavement au jus de pruneau. Une semaine? Mais tu fais quoi de ton butin? Tu l'épargnes? Non, moi, j'ai l'impression de me trimballer ma poubelle, c'est horrible. Et alors, sinon, je viens d'apprendre, pour tous ceux qui souffriraient de xénophobie, apparemment, on croit très facilement toutes les saloperies qu'on dit de quelqu'un quand on a peur de lui. Voilà, si cette info peut vous aider. En tout cas, mes petits culs, je ne sais pas de quoi vous avez peur, vous, mais comme le disait Maître Yoda, la peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance mène à Hidalgo. Et quand tu vois la gueule de Yoda, tu sais qu'il a eu le temps d'y réfléchir. Bisous, mes petits culs, je vous kiffe, prenez soin de vous.
Et merci, Douli. Nous aussi, on te kiffe. Charline, je vous entends, mais vous êtes quand même assez loin dans la voix.
Non, je suis juste derrière vous, Juliette. Ah, bah regardez, hop, je suis là. Oui, j'ai pris place derrière mon pupitre, devant les 500 personnes réunies ici qui s'apprêtent à former une convention citoyenne. Que le gouvernement mène une opération place nette contre le trafic de drogue dans toute la France. Ici, à Strasbourg, la mairie envisage la mise en place d'une expérimentation locale pour autoriser la consommation récréative de cannabis.
Oh, c'est génial, alors là, on est totalement
fou. C'est pour après le vote.
C'est génial.
Bon, je note, mais c'est pour après le vote. Hein. Mais justement, on va quand même faire le débat, si ça vous ennuie pas. Parce que, bon, y a pas que vous, il y a aussi les auditeuristes, il y en a peut-être qui sont pas d'accord. Mais justement, le gouvernement, lui, a choisi de mettre la pression sur les consommateurs. Est-ce que ça vous semble productif?
De quoi?
Bah, de leur mettre la pression.
De mettre la pression à qui?
Bah, aux consommateurs.
Mais aux consommateurs de quoi?
Mais aux consommateurs de cannabis, enfin, vous m'écoutez ou bien?
Ouais, on vous écoute, mais... Est-ce que vous pouvez me rappeler pourquoi on est là?
Non, d'ailleurs, elle est vachement belle, cette salle. Waouh! Wow. Non, mais vous avez vu comment il est haut, le plafond?
Ouais!
Waouh! Wow.
Ok, très bien.
C'est fou.
Non, oui, c'est bon, merci. Non, conclusion, c'est bien de mettre la pression aux consommateurs. Franchement, ça rend très, très relou, ces substances. Hein.
Les substances de quoi?
Bon, alors... est-ce que certains parmi vous ont déjà eu des problèmes de dépendance?
Oui, moi.
Oui, alors allez-y, monsieur, vous avez la parole.
Alors déjà, bonjour, je m'appelle Robert.
Bonjour, Robert.
Et pendant longtemps, j'ai souffert d'une grave addiction à...
Bon. Ouais, allez-y, Robert, on est avec vous. Hein.
À la dépense publique.
La dépense publique, c'est pas une drogue, ça.
Si, 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 on est une. Bruno Le Maire, il l'a dit. Il faut sortir de cette addiction à la dépense publique. Il l'a dit, Bruno Le Maire. Je suis un toxico,
alors,
quoi.
Attends, oui, si c'est Bruno Le Maire qui le dit, alors bon.
Ouais. Bah, vous savez, au début, on fait pas gaffe.
Ouais.
Hein? On inscrit ses enfants à l'école publique, on prend les transports en commun, ouais. On se dit qu'on arrive à gérer, et puis on tombe dans l'engrenage.
Ouais.
On va chez le médecin, on remplit des formulaires de la CAF.
Mais ça va aller, Robert, ça va aller, ça va aller. Ouais.
J'ai tellement honte aujourd'hui. Ouais.
Oui, Robert, mais...
Merci. Allez,
c'est derrière vous, tout ça, maintenant. Hein.
Ouais, là, grâce au gouvernement, t'inquiète pas, qu'il fait tout pour te désintoxiquer, mon pote.
Ouais. Alors, attendez, parce qu'on s'égare, là. Revenons à la dépénalisation, qui n'est pas la légalisation. Hein. Est-ce que cette nuance est bien claire pour tout le monde?
Si je peux me permettre...
Oui, allez-y, oui.
Oui, le terme de dépénalisation renvoie à une absence de peine en cas de consommation, sans pour autant autoriser le produit, alors que la légalisation reviendrait à légaliser la substance en elle-même. Ce n'est pas la même chose.
Ouais, mais c'est exactement ce que j'ai dit, pourtant.
Ouais, mais moi, je trouve que je l'ai mieux dit.
Ok, allez, on enchaîne. Allons voir comment ça se passe chez nos voisins européens. Au hasard, mais vraiment au hasard, hein. Allons voir en Belgique. J'invite à la tribune Laurence Bibeau.
Écoutez, je suis sur le cul. Excusez-moi, je ne suis pas familière des gros mots, mais je m'aligne sur mes copains de table. J'ai découvert dans un excellent article du journal Le Monde qu'Emmanuel Macron n'est pas le seul auteur des couillonnades qui émaillent ses prises de parole. Et si ça ne me le rend pas plus aimable, ça prouve au moins ma naïveté. Évidemment, évidemment, idiote qu'il a des co-auteurs, comme la plupart des humoristes autour de cette table. Je dis bien la plupart, rassurez-vous. Bonjour mes petits culs. C'est Doudouli, enfin je crois, j'espère. Non mais c'est parce qu'on ne sait plus dans un monde industrialisé, déshumanisé, où tout va si vite, sauf... Non, non, tout va si vite, même le train à Bruxelles-Strasbourg, c'est ce qui s'appelle faire de l'humour à contre-courant. Voilà. Oui, ben oui. Ah. I love Strasbourg, surtout le train Bruxelles-Strasbourg qui passe par Marne-la-Vallée. Donc, oui. Je suis belge et chez moi, dans mon petit pays, les hommes et les femmes de pouvoir écrivent eux-mêmes leurs textes. Enfin, j'espère, parce que ce que nous a littéralement pondu le ministre de la Justice belge, après de nouveaux épisodes de violence dans le milieu des stupéfiants à Bruxelles, tient du génie. J'ai toujours dit, alors je ne me moque pas, il a un accent, mais c'est pas à vous que j'apprendrai ce que c'est que d'avoir un accent. Que j'aime beaucoup. Donc il est flamand et j'ai toujours dit que les choses allaient empirer avant de s'améliorer. Vous avez l'air de...
Oui.
C'est génial, c'est fait maison, ça fonctionne pour tout. Pouvoir d'achat, j'ai toujours dit à moi que les choses allaient s'améliorer avant de s'empirer. Gaza, avant de s'empirer. Réchauffement climatique, j'ai toujours dit. Enfin bref, génie toujours chez notre commissaire national aux drogues, une dame qui, face au pouvoir destructeur des organisations criminelles, nous propose une métaphore, la stratégie de l'iceberg. Pour ceux qui, comme moi, croyaient que le surréalisme belge s'était surfait, eh bien, devant la stratégie de l'iceberg, on s'incline. On dirait une mauvaise série Netflix, oui c'est ça, en pire et en plus compliqué, puisque attention, l'iceberg, je vous explique, représente l'organisation criminelle à démanteler, je vous répète sa stratégie parce que c'est brillant, pour en réduire, non, c'est pas que je me moque, elle est aussi flamande, pour en réduire la taille, vous pouvez directement foncer sur cet iceberg. C'est là, eh bien oui, elle est chez nous, je veux dire, la seule personne qui n'a pas vu la fin de Titanic... Mais elle avait deux solutions. Voici la deuxième. Pour en réduire la taille, vous pouvez augmenter la température de l'eau pour qu'il fonde. Elle n'a pas lu non plus les rapports du GIEC. Et je me suis dit finalement, si on mélangeait nos talents, c'est vrai, si on prend votre opération Place Net XXL qui force l'admiration, j'adore. Ouais, mais c'est vrai, ça fait un peu film de cul et d'aventure. Sur Canal, cette nuit, opération Place Net XXL avec Rocco Siffredi. Et si on ajoute notre iceberg, on lance l'opération de l'iceberg Net sur le Place XXL. Non mais c'est pour tromper l'adversaire, c'est génial. J'ai le temps qu'ils comprennent qu'est-ce qu'il a dit, c'est quoi un iceberg. Hop, on les met dans la fourgonnette. Finalement, quand je me dis que je ne suis pas tellement différente de la commissaire aux drogues ou du ministre de la Justice, j'écris moi-même des textes et comme eux, personne ne me relit, ça je vous jure.
Laurence Bibot, merci, chère Laurence. Et en Belgique, il y a une tolérance jusqu'à 3 grammes de cannabis. 3 grammes, un avis sur la question ?
Ah non, moi je suis pas une balance.
Mais si t'es pas une balance, du coup on saura jamais combien ça fait, 3 grammes.
Merci, super, on avance, hein. Vraiment je vous remercie. Donc malgré des opérations de police importantes, les points de deal se déplacent et se reconstituent ailleurs.
Ouais, les dealers, ils écoutent Macron.
C'est-à-dire ?
La police, elle détruit les points de deal, donc ils se retrouvent au chômage.
Et
ben après, ils traversent la rue pour trouver du travail.
Eh oui, ah, bien sûr. Et je vois. Alors pour finir, le trafic de drogue est responsable de nombreux décès quand même.
Vous savez, comme le dit tout le temps mon mari, il faut bien mourir de quelque chose.
Ouh, il a l'air d'avoir de l'empathie, votre mari. Il fait quoi dans la vie ?
Il est buraliste.
Voilà. Allez, il est temps de conclure et d'énoncer la proposition qui sera soumise au vote après le journal de 19h. On va tester dans les conditions réelles l'idée de la mairie de Strasbourg pour ou contre une expérimentation locale afin d'autoriser la consommation récréative de cannabis. Suspension de séance, je vous laisse délibérer et on reprend à l'issue du journal d'information de 19h.
Le grand dimanche soir.
Et merci d'avoir choisi France Inter, 19h17. C'est la suite du grand dimanche soir en direct de Strasbourg avec le public de la cité, de la musique et de la danse. La sonnerie appelle le retour de Charline Vanhoenacker.
Eh oui, Eric Delvaux, bon, je vous propose pas de nous rejoindre, ça va faire un peu
petit
loin.
Peu loin, mais pourquoi pas. Une pichenette. J'écoute.
Restez à l'écoute. Merci Eric pour ce journal et merci à toute la rédaction de France Inter. Bien, nous allons voter maintenant la proposition de loi qui a été débattue avant votre journal ici à Strasbourg pour ou contre une expérimentation locale pour autoriser la consommation récréative de cannabis. On va, comme c'est une proposition qui est un peu dans l'air ici dans la mairie, on va la tester en grandeur réelle. Si vous nous avez suivis en première heure, j'ai l'impression que vous connaissez la réponse, mais enfin bon, c'est la démocratie. On va faire ça quand même sous un avec l'avis d'un huissier de justice. Donc, par applaudissement, qui est contre ? Mais oui, mais bien sûr, il en faut.
Il y a un flic.
Par applaudissement, qui est pour ? Aïe, aïe, aïe. Madame la maire de Strasbourg, ou en tout cas, parmi notre public, cette proposition est adoptée. Et c'est le grand dimanche soir qui se poursuit jusqu'à 20h dans vos oreilles sur la FM et bien sûr en vidéo sur franceinter.fr ou la chaîne YouTube de France Inter. Ce soir avec Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Laëlia Véron, Douli, il y a aussi Djoubaka, Walid Dia, Laurence Bibot, Frédéric Fromet. Et notre invitée, c'est la journaliste et autrice Nadia Dame.
Le grand dimanche soir, Charline Vanhoenacker.
Bienvenue Nadia Dame, bienvenue chez vous.
Oui, c'est la maison un peu, ouais, en effet.
Et oui, ouais. Écoutez, alors vous avez été l'une des figures de l'émission d'Arte 28 minutes pendant 11 ans. Mmh. On vous a suivi pendant 11 ans sur cette émission. On vous écoute aussi sur cette antenne. Le dimanche matin à 8h50, vous livrez une chronique intitulée Famille & Co. Et vous avez aussi animé sur cette antenne Modern Love. Vous publiez un récit chez Grasset intitulé La Gosse. C'est la raison de votre venue, on va en parler. Mais votre venue chez vous ? Vous êtes de
Strasbourgeoise.
Carrément.
Alors non, pour être précis, je suis née à Schiltigheim. Alors je suis hyper contente, c'est la première fois. Et c'est la première fois que je peux dire Schiltigheim en sachant que tout le monde ou presque peut l'épeler, ce qui est quand même assez
vrai.
Mais après j'ai grandi à Strasbourg, je suis restée jusqu'à mes 18 ans et une partie de ma famille est toujours et je reviens de temps en temps, pas assez souvent au goût de ma mère, mais je reviens régulièrement.
Et qu'est-ce que vous préférez dans cette ville à part les plats de votre mère ?
Les bretzels.
Ouais.
Mon ancien lycée qui est magnifique et j'ai quelques amis encore et
ouais. Très bien. Et vous publiez, je l'ai dit, La Gosse, c'est paru chez Grasset, Nadia Dame. Mais alors, c'est qui cette gosse ?
Elle est sur la couverture, il y a un indice. C'est ma fille. Encore que La Gosse, c'est pas un titre qui nous est venu tout de suite avec mon éditrice, c'est un titre de travail. Et après, quand il a fallu en trouver un, on s'est dit que c'était peut-être le mieux, en effet, parce que La Gosse, quand on lit, ça veut aussi dire parfois les gosses. Et puis quand on dit la gosse, c'est un enfant de n'importe quel âge, c'est-à-dire un enfant petit, un enfant ado, un jeune adulte. Et en l'occurrence, dans le livre, je parle de toutes ces époques-là de l'enfance de ma fille. Donc.
Oui. Et en quoi cette relation entre vous, la mère, et la gosse, cette fille, elle avait un potentiel de récit, un potentiel littéraire? Pourquoi en avoir fait un livre?
Je suis pas la première. Alors si, parce que j'ai une très bonne amie à moi qui m'a fait remarquer, j'y avais pas pensé en l'écrivant, qu'on a une amie qui s'appelle Titu Lecoq et qui m'écoute peut-être et que j'embrasse.
On voit bien, on l'embrasse.
Mais qui m'avait fait remarquer qu'on avait l'habitude de lire des récits de femmes au sujet de leur mère. Alors soit pour régler des comptes comme souvent, et ça on aime bien les dramas, soit pour dire que leur mère était fantastique, mais qu'on était moins habitué à lire en effet des femmes parlant de leur fille, ce qui est pas inintéressant. Après on pense à Madame de Lafayette.
Oui, Juliette. C'est vrai, Madame de Lafayette, Madame de Sévigné.
Ouais.
Mais c'est vrai que sinon la littérature, elle regorge d'histoires où c'est des fils en général qui s'adressent à leur père ou à leur mère, et une mère qui s'adresse ou qui parle de sa fille, c'est en fait il y en a très très peu de récits. C'est pour ça que le vôtre, en partie pour ça, qu'il est hyper agréable à lire. Est-ce que vous y avez songé au départ? Est-ce que vous disiez tiens c'est marrant, dans l'histoire de la littérature là il y a un manque?
Non, pas du tout. Non, moi j'ai vraiment fait ça dans mon coin. En plus au début ça devait pas être un livre. Ce sont des textes, un assemblage de textes, ce sont des fragments, donc il n'y a pas un début et une fin, mais que moi j'avais commencé à consigner le soir chez moi au plus fort de l'adolescence de ma fille.
La meilleure.
C'est-à-dire,
période.
Voilà, la meilleure période, vraiment, on adore, je la recommande. Il y a des moments où c'était un peu compliqué, j'avais besoin le soir, une fois qu'elle était couchée, qu'on s'était bien engueulé, de consigner tout ça. Donc c'était pas le projet d'en faire un livre, ni de combler un manque. Il se trouve qu'on a fini par en faire un bouquin, que en effet, en l'écrivant, même si au début il s'agissait juste de raconter une histoire un peu minuscule qui était celle de ma fille et moi, je me suis rendu compte, notamment en parlant avec des amis à moi, qu'il y avait peut-être une portée universelle à la fois dans la relation mère-fille et puis aussi dans ce qu'on transmet. Et moi, ce qui me semblait vraiment intéressant dans le fait de parler de ma fille et pas de ma mère, même si j'aurais beaucoup de choses à en dire, mais je garde ça pour mon psy, mais c'est de se projeter dans le futur et non dans le passé. Et moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Alors même si je convoque beaucoup de souvenirs de mon enfance, de mon adolescence, tout ça, je pense qu'on a tellement tendance à dire que la génération qui vient, ils sont stupides, ils sont nuls, ils sont sur TikTok toute la journée, vraiment. Et j'avais plutôt envie de les réhabiliter, de dire, bah non, là, il se passe quand même quelque chose dans les gamins qui ont l'âge de ma fille, qui ont 17, 18 ans. Moi, j'ai plutôt envie de les admirer, de parler d'eux, plutôt que de me désoler de la génération qui vient, quoi.
Et pour celles et ceux qui n'ont pas d'enfants, comme moi, c'est pourtant extrêmement parlant, parce qu'il y a un portrait de génération aussi, portrait d'époque, de deux générations.
Et puis, si on n'a pas de fille ou pas d'enfant, on a eu une mère, peut-être.
Ah oui.
Et donc, on peut aussi y penser. Quand on parle ou quand on écrit famille, la case monoparentale, elle est non existante.
Ouais.
Dans les livres, dans la vraie vie, oui, ça existe, et beaucoup. C'est le cas de votre famille à vous avec la gosse. Est-ce que ça aussi, c'était un truc où vous disiez, il y a quand même un moment, il va falloir en parler, il va aussi falloir qu'il y ait des récits qui racontent ce que ça peut être une famille monoparentale, sans que ce soit Les Misérables?
Ouais, il y a un défaut de représentation assez clair. Dans la publicité, par exemple, on voit assez peu de mères seules avec un ou plusieurs enfants. Dans la pop culture, j'ai réfléchi il n'y a pas très longtemps avec une amie, on se disait, mais est-ce qu'il y a des séries françaises ou américaines qui parlent de ça? Et franchement, avec des femmes qui élèvent seules des enfants, et à part Dr. Quinn, femme médecin, on n'a pas... Il y a Gilmore Girls, qui est une série américaine.
Il y a quand même
des
jolies.
Il y en a quelques-unes, mais quand même très peu. Et par ailleurs, quand on raconte des histoires de femmes seules qui élèvent ses enfants, c'est souvent, alors c'est super hein, pour en faire des héroïnes, c'est Erin Brockovich, ce genre de choses, tout ça. Mais c'est jamais pour raconter la banalité du quotidien. Moi, ce que j'ai envie de raconter dans ce bouquin, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Justement, c'est l'ordinaire. Moi, chez moi, il y a du linge qui sèche, il y a des gnocchis à poêler, il y a le chat qui a fait caca dans l'entrée ce matin avant que je prenne le train. Enfin, c'est ça que j'ai envie de raconter. C'est vraiment la vie quotidienne d'une femme et de ses enfants, et en l'occurrence de moi et de ma fille, mais dans ce que ça a de plus banal. Et en fait, ça peut faire de la littérature.
Chez Grasset, la gosse Nadia Dame, qui est avec nous jusqu'à 20h sur France Inter, en direct dans le Grand Dimanche Soir. Et à l'heure où on laisse habituellement le micro à Guillaume Meurice, ça va être pire, parce qu'on laisse la mitraillette à vanne du 9-3 à Walidia.
Comment ça va, mes wokiso, wokiste, wokisto, wokisé, wokisophile, wokistané, hein? On est Timmy Nesreg ou Natacha Saint-Pierre, alors? Qui a dit on s'entartine l'arrêt sur un mur en crépi? C'est pas bien, ça? Non, je sais pas vous, mais moi, au milieu de la guerre en Ukraine, de Gaza, de l'inflation, des coupes budgétaires, ça m'a fait du bien, cette petite embrouille de merde, hein? Savoir élâcher un petit salope dans les couloirs, ça pose des mains courantes parce qu'on sait très bien qu'avec les Arabes, ça part tout de suite en séquestration dans la cave, évidemment. Hein, ça fait des stories l'armichette plus longue que le Titanic, TF1 qui aurait mis la vidéo sous coffre, ça m'a détendu. Vraiment. Ah, j'ai envie de lancer une émission bagarre avec les stars.
Sur une boxe thaïlandaise, Valérie Damido et son adversaire, Philippe Etchebest. Wouh!
Trop bien. Tout le monde veut se taper en ce moment. T'es d'ailleurs, je soupçonne Emmanuel Macron d'écouter mes chroniques parce que j'ai dit qu'il voulait se lancer dans une guerre alors qu'il s'est jamais castagné de sa vie et pan! Photo biceps photoshopé 48 heures après. Poutine, il a vu ça, il a dit rangez l'arsenal nucléaire, il y a Manu qui tape dans un sac, c'est foutu. Il y aurait des dirigeants français corrompus par les Russes.
Ah bon?
Au hasard, Sarkozy, qui a signé un contrat de 3 millions d'euros avec Réseau Garantia, une des plus grosses compagnies d'assurance russe. Alors, je vois les mauvaises langues arriver, ils savent juste pas que le hobby de Sarkozy, c'est les assurances. Voilà. Le week-end avec Carla, il joue à Matmut ou pas Matmut. Hein, des politiciens qui trahiraient pour de l'argent, mais vous croyez où? En France? Hein, on est dans la société du clash permanent, c'est comme ça. Alors, ça fait une sacrée promo, les clashs. Moi, faut que je me trouve une cible. Au hasard, Bruno Le Maire. Hein, ouais, je remarque que la tension qu'on a en France, elle est proportionnelle au moment où il ouvre sa gueule. Ouais, 2 semaines qu'il a en boucle. Le déficit, la dette, il n'y a plus d'argent à cause des gueux qui veulent des écoles et des hôpitaux qui fonctionnent. Vous vous êtes cru où? En France? Ouais, il se trouve qu'en fait, ça fait 7 ans qu'il gère l'argent du pays, Bruno. Donc, c'est pas nous le problème, c'est toi. Hein, Bruno, c'est le chauffeur de bus qui se trompe de trajet, qui engueule les passagers en taxant la monnaie qu'ils ont dans les poches. Et en plus, il leur dit qu'il n'y a pas assez. On lui a filé un budget en milliards, alors que quand il était ministre de l'Agriculture, le maire, il savait même pas ce que c'était qu'un hectare et qu'il était nul en maths. À ce moment-là, Macron, il a dit « Oh, c'est lui, c'est l'élu, je le mets à l'économie. » Hein, c'est comme donner une visseuse à un gamin de 3 ans et s'étonner qu'il arrive pas à monter le meuble et qu'il ait fait des trous dans le chat. Après, faut savoir reconnaître quand il a une bonne idée. Bruno Le Maire a récemment déclaré qu'en raison d'un record historique de dividendes de 100 milliards d'euros, les entreprises du CAC 40 allaient reverser un impôt exceptionnel de solidarité. Mmh. Eh non, je déconne. Ah. Alors, on peut vous faire croire n'importe quoi, les gauchias. Vous êtes pathétiques de désespoir. Dans le même temps, Gabriel Attal, le nouveau membre de l'équipe des pyjamasques, il veut réduire la durée d'indemnisation du chômage. Encore, parce que ça a déjà été réduit de 6 mois l'année dernière. L'étape d'après, c'est de réduire les chômeurs physiquement. Avec des abattoirs à branleurs qui veulent pas bosser, ça va s'appeler France Bétail. Bon, tous les spécialistes... On dit à Attal que cette nouvelle réduction n'était pas une bonne idée. Hein. Donc du coup, bah, il a boudé. Hein, et il s'est enfermé dans sa chambre en écoutant du Kyo. Et il était tout chonchon aux 20h de TF1. « Moi aussi, je veux démonter des acquis sociaux comme les grands !» Et après, il a tapé avec son petit poing sur la table. C'était choupi, putain, je te jure. Macron, il a cassé les retraites. Le maire, il casse les budgets. Même Rachida Dati, à peine arrivée, elle veut casser la radio et la télé publique. C'est plus un gouvernement, c'est une fury room pour bourgeois. T'sais. Avec des grosses lunettes en plastique, bêtes de baseball, ça va exploser tout ce qui reste des luttes d'après-guerre. Parce que eux, ils s'en tapent. La moitié des ministres sont millionnaires. Hein. Donc comment ça se fait qu'ils arrivent pas à gérer nos thunes, comme ils gèrent les leurs? Bah, c'est justement parce que c'est pas les leurs, du con. Ouais, je me réponds tout seul, ça va pas fort en ce moment. On veut bien leur donner l'argent, mais après, on le retrouve plus, parce qu'il est pas dans les écoles, il est pas dans les hôpitaux, il est pas dans les transports, il est peut-être dans les JO. Ouais. Ah, déjà, il y a de l'argent d'Anthony Estanguet. Il y en a plein. Ouais, avec tout ce qu'il prend, ça va jamais tenir dans le kayak. Il y a même eu des perquisitions au CIO pour prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics et favoritisme. C'est le classique, c'est le tacos 3 viandes. Hein. Ouais, tu m'étonnes qu'on soit pas prêt dans l'organisation des jeux. Siphonner la thune des autres, c'est chronophage. C'est là, ils procèdent à la mise à l'abri des SDF de Paris. Hein. On les dégage de Paris, en fait, en bus, en train, en catapulte, s'il faut. Et les matelas sur les trottoirs avec des enfants dessus, ça fait pas très coubertin, donc foutez-moi le camp. Hein, ça va, les clodos. Hein. Faudrait pas qu'ils en profitent pour faire la manche avec les touristes du monde entier. Il restera plus rien pour les pickpockets après.
Walidia, n'hésitez pas à faire tourner sur YouTube ou en podcast, en spray, en tablette. Merci Wally. Nous sommes en compagnie de Nadia Dam qui publie La Gosse, paru chez Grasset. La Gosse, justement, est-ce qu'elle a découvert le récit une fois terminé, petit bout par petit bout? Quelle réaction?
Non, elle a été impliquée depuis le début. Je vais poser la question déjà de l'existence même de ce livre. Et puis après, je lui ai soumis tous les chapitres
ça aurait été absurde et totalement incohérent de faire un bouquin dans lequel en plus je dis qu'il faut laisser aux enfants, aux adolescents habiter leur espace, ne pas mordre sur leur territoire, et pour après moi faire mon truc dans mon coin. Et puis par ailleurs, on habite dans un appartement à Paris, c'est impossible de faire un truc de son côté. Il est toujours au-dessus de mon épaule.
Il y a un truc que je trouve particulièrement formidable dans ce roman, c'est le ton. Vous n'esquivez à peu près aucun sujet, y compris les déplaisants et les déplaisants qui vous concernent. Alors, je vais donner un exemple. Vous écrivez « Si je suis honnête, et d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours un peu trop bu. » On admirera le mix entre Les Affranchis et Proust. Est-ce que c'est votre manière à vous d'aborder les choses, de pas les esquiver, mais en même temps de rester concise et souriante?
En tout cas, ce à quoi je me suis vraiment attachée, c'est d'être honnête tout le temps. Et c'est effectivement pas toujours flatteur pour moi. Personne n'ose dire, franchement, je pense que je suis un peu un sac à vin. Mais en fait,
c'est pas ici qu'on vous jugera.
Et en plus, j'étais en coulisses, donc je peux le confirmer.
Oui. Oh, on est en Alsace, alors un peu de bière.
Mais oui, effectivement, il faut déjà poser les choses. C'est-à-dire que là aussi, c'est un peu le propos du livre, c'est le devoir d'honnêteté qu'on doit aux enfants, de leur dire qui on est, d'où on vient, quels sont peut-être nos défauts. Et donc ça, il faut le livrer dans le bouquin. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et par ailleurs, oui, moi, j'aimais bien alterner entre des situations un peu graves, parce qu'avec ma fille, on a vécu des trucs graves et des choses plus drôles. Et j'ai l'impression que c'est une bonne manière de délivrer ce texte-là. Et de pas perdre le lecteur. D'ailleurs, à un moment, j'ai mis un gros coup derrière la nuque en lui racontant un truc horrible de deuil, de mort et tout. Et puis après, je vais essayer de raconter un truc un peu marrant. Ouais.
Et de la même manière, quand vous abordez le passage de « Est-ce que je vais refaire ma vie ?» Parce que c'est ce qu'on demande beaucoup à une femme qui élève seule un enfant. Et vous dites, alors là, je peux vous le dire, il ne s'est jamais agi de refaire sa vie ni de rebâtir quoi que ce soit. Mais d'ouvrir poliment sa porte à un mec à califourchon sur une boule de démolition et de lui indiquer les murs porteurs à abattre.
Et j'espère qu'il s'est reconnu.
Alors, je sais
pas. En tout cas, j'ai pas eu de message.
En tout cas, moi, j'ai éclaté de rire.
C'est vrai. Oui, soulignons aussi le style de Nadia Dam.
Oui, parce que vous réussissez à être drôle, mais de manière extrêmement concise, tout en abordant des choses qui sont douloureuses.
Et là, vous parlez effectivement du fait de refaire sa vie. Ouais, c'est un sujet douloureux, déjà parce que il est régulièrement mis sur le tapis quand on est séparés, avec toujours une petite mine un petit peu inquiète, parce que après tout, une femme, elle n'est pas complète si elle n'a pas un plus un, si elle n'a pas quelqu'un qui l'accompagne, si en plus elle a eu un enfant, qu'elle s'est séparée, qu'elle n'a pas recomposé. Là aussi, hein, on s'apitoie beaucoup sur elle. Et donc oui, c'est le genre de choses que j'ai envie de raconter. Alors, je suis pas sûre que ça va m'aider à choper davantage ce que je raconte.
Moi, je suis pas sûre.
Ah ouais.
Parce que moi, j'ai pensé en lisant ce livre. Moi, je n'ai pas d'enfant et j'ai pensé que c'est un très bon programme de réarmement démographique. Je vois pas comment on peut pas avoir envie d'avoir un enfant, en tout cas d'avoir une fille après avoir lu ce livre.
Alors moi, c'est marrant parce que en l'écrivant, j'ai plutôt eu l'inquiétude inverse. C'est-à-dire que mon propos, c'est aussi de dire que
élever une tannée.
Élever une fille, c'est vraiment une. Enfin, élever en fait.
C'est un enfer.
C'est pas du tout ce que j'allais dire. En plus, elle m'écoute, c'est horrible.
On l'embrasse, la gosse.
Non, parce que en plus, j'allais dire un truc hyper sérieux, c'est que
allez-y.
Élever un enfant. En fait, élever une fille, c'est s'inquiéter deux fois. On s'inquiète quand on élève un enfant, on a peur qu'il lui arrive malheur, et quand on élève une fille, on sait qu'il va lui arriver malheur. Donc c'est quand même une charge assez lourde à porter pour une femme, et en plus il n'y a pas d'antidote.
Et ça en fait un récit féministe, la gosse Nadia Dam, paru chez Grasset. Laurence Bibeau l'a lu aussi, elle a beaucoup aimé. Hein. On valide complètement, on vous recommande. Joe Bacca, dites donc, notre groupe en live dans le grand dimanche soir en direct sur France Inter depuis Strasbourg, c'est Dirty Deep et ils nous ont promis une reprise.
Eh oui, ils reprennent une chanson de Lenny Kravitz qui date de 1993, Are You Gonna Go My Way, comme dit Juliette. Donc voilà, Tom Jones et Metallica sont essayés à l'art de la reprise avec cette chanson. Et maintenant, c'est au tour des Dirty Deep. Let's go!
Allez!
We'll be right back.
Avec cette reprise de Lenny Kravitz. Vous serez aux Eurocayennes de Belfort le 5 juillet. Ce sera le même jour que Lenny, il paraît.
Oui.
C'est pour ça ? Il y a un petit appel du pied. Ça va finir en featuring, cette histoire à Belfort.
Vous croisez les doigts et les doigts de pied.
Je rappelle que votre album Trompe-l'œil est disponible. Merci à Dirty Deep. Vous pouvez applaudir Victor Sbrovazzo au chant, à l'harmonica, à la guitare. Geoffroy Sourp à la batterie. Et Adam Lamprey à la basse. Merci beaucoup. Et rendez-vous dans les oreilles avec Trompe-l'œil, sorti l'année dernière. Vous écoutez France Inter en direct de la Cité de la Musique et de la Danse à Strasbourg. Juliette Arnaud et Émeric Lompré s'apprêtent à bondir dans le public. Je vais d'abord dire merci aux techniciens aussi qui préparent les lives et la prise de son quand même. Grâce à eux, on a eu un magnifique live. Merci à Thomas Robin et Mathieu Leroy, à la sonorisation Alexandre James, atelier graphique Camille Waldschmidt et les décors et la signalétique David Boulez et Daniel Louison. Oh, c'est un véritable spectacle radiophonique, cette émission, c'est fou. Alors donc, Juliette et Émeric Lompré, que va-t-il se passer ? J'ai peur, ayez peur. Ils s'apprêtent à bondir dans le public et dans vos oreilles pour notre grand jeu, pour lequel on n'a toujours pas de thunes. Donc ce sera une fois de plus le jeu 100 euros. À vous Juliette, à vous Émeric. Oui, merci Charline et bienvenue à toutes et à tous dans notre jeu. Le jeu 100 euros.
Le jeu qui fait des heureux.
Mais pas des euros.
Ouais. Bonjour. Bonjour Juliette.
Bonjour Émeric. Ne criez pas, vous n'êtes pas si loin. Ouais. Une fois encore, Émeric, nous avons sélectionné la crème de la crème, une candidate et un candidat dans la Cité de la Musique et de la Danse de Strasbourg.
Tout à fait, Juju, tout à fait. Et avec qui êtes-vous ?
Je suis avec Louise. Louise, comment est-ce que vous vous appelez ?
Je m'appelle Louise.
Oh, bah c'est bien fait et puis c'est très joli. Louise, qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie ?
Je suis un agneau. Ben.
Et ça va ?
Bah, à votre avis, ce week-end, c'est Pâques. J'ai un mauvais pressentiment.
Moi aussi, Louise. Moi aussi, j'ai un mauvais pressentiment. Et vous, Émeric, avec qui êtes-vous ?
Moi, écoutez, je suis avec Simon. Simon, quel est votre prénom ?
Simon.
Pas ouf. Alors, Simon, que faites-vous dans la vie ?
Je suis médiateur avec, dans Danse avec les Stars.
Ah. Et vous êtes ?
En burn-out.
Évidemment. Et donc, ma Juju, nous jouons pour un magnifique cadeau. Lequel est-il ?
Ah, écoutez, Émeric, c'est un cadeau exceptionnel. Il s'agit d'une photo, la photo de la plus belle place de la région Grand Est, la place Stanislas à Nancy.
Waouh. Allez, c'est parti pour le jeu 100 euros.
Le jeu qui fait des heureux.
Mais pas des euros.
Et on commence avec la première question, Émeric.
Oui, alors, Simon, vous devez deviner le prix de ce magnifique fer à repasser, toute option, muni d'un
G. Non, Émeric, non, mais non, on fait pas le juste prix.
Ah oui, pardon. Bon, alors, en trois briques, bidet.
Non.
quoi.
Non, non. Alors déjà, bidet, non. Et non plus, on joue pas à pyramide.
Ah mais oui, mais quel idiot fais-je. Alors, c'est parti. Shifumi.
Non, non. Bon, allez, ça suffit comme ça. Simon, vous gagnez le point. Bravo. Allez. On passe. Ah, il y a un moment, il faut prendre des décisions. On passe à ma question. Louise, concentrez-vous. Qui a été auditionné cette semaine par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est Yann Barthès pour l'émission Quotidien? Est-ce que c'est Inès Reg et Natacha Saint-Pierre pour Danse avec les stars? Ou peut-être Saïd Tagmaoui et Mathieu Kassovitz pour Mon égo est plus gros et plus con que le tien, je sais plus. Ou est-ce Laurent Romeshko pour Les chiffres et les lettres? Votre réponse, Louise?
Je crois que c'est Yann Barthès.
Oui, oui, c'est la bonne réponse.
Bravo.
Et donc,
oui.
Le score.
Un petit point sur les scores.
S'il vous plaît.
45.
Et on ne joue toujours pas au tennis. Ah, le score oui. est donc de 1-1. Et pour vous départager, on va passer sans plus attendre à la question.
Bonus. 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 Bonus.
Voilà, alors, la
alors,
question.
Calmez-vous, calmez-vous les Lorrains.
La question bonus.
Aujourd'hui, la question bonus est à 2 points.
Oh, c'est tout.
C'est pas beaucoup.
Bien
c'est...
la peine de faire crier les gens. 2 points. Alors, une porte. Louise et Simon a été vendue aux enchères, mais c'est pas n'importe quelle porte. C'est pas celle, par exemple, que va prendre Guillaume Meurice à la fin de la saison. Non, c'est celle qui, dans le film Titanic, permet à Rose d'être sauvée, mais pas Jack, parce que les filles, c'est des grosses égoïstes. Donc, cette porte a été vendue aux enchères. À combien estimez-vous cette enchère, Louise?
100 000?
Ça me paraît une réponse convenable.
100 000. Mais vous, Patrick, Simon. Simon.
1 million?
1 million!
Alors, wow, alors la bonne réponse, monsieur, je sais compter.
Eh ben, je pense que c'est Simon qui a la bonne réponse, puisque oui. la bonne réponse était 660 000 euros!
Et c'est donc Simon qui gagne cette photo magnifique de la place de Nancy.
Bravo. Alors, à la semaine prochaine pour le jeu 100 euros.
Le jeu qui fait des heureux.
Mais pas des... Non.
Merci Juliette Arnaud, Émeric Lompré. Et la billetterie est ouverte pour venir nous voir dans le studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique à Paris dimanche prochain. Nadia Dame est avec nous, journaliste et autrice qui publie Lagos chez Grasset. Nadia Dame, justement, le Sénat examine en ce moment une proposition d'une sénatrice socialiste, Carole Brossel. Elle propose une carte de famille monoparentale avec des droits. Et c'est vrai que la précarité des mères célibataires sort de l'invisibilité politique. Et votre récit coïncide parfaitement avec ça. Vous trouvez que c'est une bonne idée? Vous suivez?
Oui, c'est une très bonne idée, mais j'ai une toute petite interrogation sur le nom. Carte, parce qu'en fait, quand on dit carte, on imagine que c'est un truc qui va filer des reducs chez Euro Disney, tout ça. Pas du tout, en fait. Et quand on lit le rapport et ce qu'elle explique, ça vient apporter des réponses à un phénomène identifié, documenté. C'est qu'effectivement, il y a une grande précarité des mères célibataires, qu'il y a des absurdités totales dans la loi. Le fait, par exemple, que les pensions alimentaires sont défiscalisées pour les pères, mais pas pour les mères. Qu'elles payent effectivement beaucoup plus cher que ce qu'elles devraient pour nombre d'activités pour leurs enfants, etc. Et ce qu'elle dit beaucoup, c'est que à partir du moment, j'espère que ça aboutira, où on aura cette carte, on pourra s'identifier, se signaler comme mère célibataire. Parce que quand on est une famille nombreuse, en général, ça se voit, ça s'entend. Quand on est seul avec ses enfants, ça se voit pas nécessairement, et ça se voit pas nécessairement auprès des impôts, auprès de... Il y a plein de femmes qui ont droit au RSA et qui ne le demandent pas. Donc je pense que c'est une super initiative. J'ai juste peur que ça aboutisse pas forcément.
La gosse a grandi, elle a eu son adolescence pendant MeToo. C'est comment d'élever une fille quand on est soi-même féministe et qu'il y a MeToo qui arrive?
Bah, c'est infiniment compliqué, c'est ce que je commençais à dire un petit peu tout à l'heure sur la difficulté d'élever une enfant. Et puis moi surtout, je me suis rendu compte, alors que je pensais vraiment que j'étais ultra féministe, que j'étais en fait hyper réac. C'est-à-dire que je me suis... vraiment, en tout cas, dans son regard à elle, oui, c'est-à-dire que je me suis surprise à avoir des réactions, des comportements, des phrases même, que j'aurais jamais imaginé avoir. Je le raconte dans le livre, par exemple, sur le... Il y a pas très longtemps toute une polémique sur le port du crop top à l'école, etc. Alors moi, en public, je disais, mais oui, laissons les filles porter un crop top. Et à la maison, je disais, mais jamais de la vie, tu seras comme ça. Et c'est vraiment toute la difficulté. Et je pense que ça aussi, il faut le raconter, qu'il y a vraiment ce qu'on peut assumer à l'extérieur et ce qu'on peut porter à la maison, notamment quand on est seul. Et oui, élever une fille aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a MeToo que c'est beaucoup plus simple. Le harcèlement de rue, ça continue. Ma fille, elle a eu son premier harcèlement de rue quand elle avait 11 ans, ce qui est à peu près l'âge auquel moi je l'ai vécu. Et c'est pas parce que ces histoires sont davantage portées que vivre quand on est une jeune fille, que se déplacer, que d'aller un point A à un point B quand on est une jeune fille, c'est plus simple. Et malheureusement, nous, les mères, on sait pas quoi dire de plus que les claquemurer, que de leur dire « mets un pull ».
Ne sors pas.
On reste avec moi.
Nadia Dame, la gosse. Et en plus, c'est vraiment extrêmement drôle. Et dans un style très, très enlevé, on vous le recommande chaleureusement, les amis. Nadia, vous restez bien sûr avec nous jusqu'à 20h dans cette belle ville de Strasbourg, dont vous êtes native. Et à l'heure où l'on parle dans les rédactions, on s'apprête à boucler les éditions de demain matin. Alors on va se rendre dans quelques-unes de ces rédactions où les journalistes qui sont astreintes le dimanche soir se projettent déjà dans ce lundi matin qu'on essaye de reculer au maximum. Allez, c'est parti.
Pendant ce temps-là, à la rédaction de Libération.
Bon, alors, demain, c'est la fin
de la semaine.
Ouais, mais c'est aussi la fin
du mois de mars.
Ouais, mais c'est aussi la fin
de...
Demain, c'est la fin de la trêve hivernale. Alors, quel titre on met à la une?
Ah, je sais. Fin de la trêve hivernale, une loi à dormir dehors.
Ah, j'aime beaucoup. C'est un peu long.
Ah ben, je sais alors. Fin de la trêve.
Tais-toi. Tais-toi.
Pendant ce temps-là, à la rédaction de L'Humanité.
C'est moi ?
Oui. Bon, demain, c'est la fin de la trêve
ouais.
Hein, hivernale. Cela signifie que...
Que c'est la fin du mois de mars.
Mais qu'est-ce que... Mais en fait, vous faites quoi, là, vous ? Vous ne travaillez pas à Libération ?
Eh ben oui.
Eh ben, alors, qu'est-ce que vous faites ici ?
Je sais pas.
Ah ben voilà.
Qu'est-ce que c'est ?
Non, ça signifie... Non, parce que vous dites n'importe quoi. Ça signifie qu'on va reloger ceux qui se font expulser. Allez, j'ai une famille avec deux enfants qui les prend. Moi !
Et tu vis à Strasbourg ?
Ben oui, et donc ? Eh ben, les gens... C'est pas moi qui écris. Les gens préfèrent vivre dehors que vivre à Strasbourg.
Pendant ce temps-là, à la rédaction de La Maison des Maternelles...
C'est une émission sur la parentalité. Ah non, ah, non. Oh, hein, rien à voir avec le logement. Oh, non.
Rien à voir.
Rien. Non.
Pendant ce temps-là, à la rédaction de Libération.
Bon, est-ce qu'on a d'autres idées de titres pour notre émission de demain ?
Bah, je sais. Trêve hivernale, recherche appartement ou maison.
Mais c'est quoi le rapport avec la fin du mois de mars ?
Mais t'es tout !
Pendant ce temps-là, à la rédaction de Danse avec les stars.
Tu sais ce que tu es, Laurence ? Tu es un gros paix. Tu sais ce que tu es, Louis ? Tu es un gros paix qui pue.
Oh, tu sais ce que t'es, ma juju ? Eh ben, t'es un tas de merde. Oh.
Oh. Pendant ce temps-là, à la rédaction de Libération.
Bon, alors, est-ce qu'on a d'autres idées de titres pour demain ?
Oui, recherche colocataire pour appartement à Paris. Chambre spacieuse contenant une machine à laver.
Oh, attends, Douli, tu chercherais quand même pas à utiliser le sketch pour virer ton colocataire, Émeric Lompré.
Non. Ça n'a rien à voir.
Eh bien, on va commencer par l'écouter, ce merveilleux colocataire, qui est également le nouveau Coluche. Oh, Émeric Lompré.
Bonjour à tous, vous allez bien ? Bien entendu ! Et vous devez deviner qui je suis. Non, m'enfermez pas avec des épinards dans un ravioli géant. Emery Cotta. Le talent. Allez, l'actualité. Aujourd'hui, on va parler de Gabriel Attal. Alors à Strasbourg, vous connaissez peut-être pas, mais c'est le Premier ministre de la France. Oh, qu'il est agréable d'apprendre des choses quand Paris débarque en province. Gabriel Attal, d'ailleurs, qui était à l'école alsacienne. Hein, et pas comme la vôtre où les profs, ils vous touchent. Non, celle dans Paris où c'est les prix qui se touchent. C'est quand même triste que le seul endroit qui soit classe en Alsace soit pas en Alsace, quoi. Bon, allez, plein de personnalités y sont passées à l'école alsacienne. Agnès Buzyn, Stanislas Guérini, Vincent Moscato. Bon, lui, à mon avis, c'était plutôt à cause de la carte scolaire, mais... Ça, ça doit être sympa, les réunions d'anciens d'élèves. Et qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir enculer des pauvres ? Pff, Vincent ! Alors, je sais pas si vous avez vu, mais Gabriel Attal, il a fait l'interview mercredi sur TF1. Enfin, une interview. TF1 lui a filé un micro. À côté, ils ont mis Gilles Boulot et un vase. Tu sais, tu fous Gabriel chez lui avec un fond vert, c'est pareil, quoi. D'ailleurs, Gilles Boulot, à TF1, il appelle le fond vert. Tu peux mettre n'importe quoi dessus. Une fois, pour déconner, ils ont mis un arbre. Ça fait Gilles Boulot, Boulot. Bon, le talent. Bon. Non, mais il y a moins de contradictions dans l'œil de Gilles Boulot quand il remue la queue que dans l'œil d'un chien quand il remue la queue. Quoi? Non. Non, ça marche pas. Avec des proches, ça marchait, mais c'est hyper dur de piquer des blagues. Quel génie, ce Thomas Sisley! L'interview, je l'ai pas regardé en direct. Je pouvais pas parce que c'était mercredi. Et mercredi, je fais mon sport. Enfin, sport. C'est de l'initiation au bodybuilding. On soulève rien, c'est juste on se met de l'huile comme ça. Et après, on se regarde. Bon, alors. Non, du coup, j'ai regardé l'interview de Gabriel Attal en replay. Alors, j'ai dû me créer un compte sur MyTF1. L'enfer, caca. Du coup, pour l'adresse mail, j'ai mis l'heuredesproutes@gmail.com. Et le mot de passe, j'ai mis gros réac de merde, tout attaché. Vous pouvez l'utiliser, hein. Ça. Alors attention, dans l'historique de recherche, il y a Denis Brognard décaloté, mais c'est pas moi. Qu'est-ce qu'il y a comme pub sur MyTF1? Putain, 11 minutes de connards avec leurs grosses têtes de vendeurs de fenêtres. Enfin, 10 minutes pour ceux qui font des pubs et 1 minute pour celui qui fait l'interview. Et ouais, j'ai pas tenu. Première question, le voile. Bim, bam, boum, putain, prévenez. Putain, j'ai coupé, impossible. 1 minute, c'est mon max. Après, c'est bien 1 minute, hein, comme dit Maaf. Femme. Là, je vous assure, c'est la province, ils adorent ce genre de blagues. Du coup, je sais pas ce qu'il a dit, hein. Mais je me suis dit que, voilà, vous allez faire sûrement une chronique là-dessus et que j'allais reprendre une blague dans ma chronique. C'est parti. Après la réduction de l'indemnisation chômage, la suite, c'est de réduire les chômeurs directement. Avec des abattoirs à branleurs qui veulent pas bosser, ça s'appellera France Bétail. En fait, c'est hyper facile de piquer des blagues. Merci Wally.
Avec plaisir.
Et merci de m'avoir écouté.
Merci Aymeric Montrand. Un petit peu de droit d'auteur en plus à Wally, c'est très très bien. Merci Aymeric. Nadia Dame est en notre compagnie. Dans La Gosse, Nadia, vous dites à un moment, je suis pas transfuge de classe. Et pourtant, vous venez d'un milieu pas du tout favorisé. Justement, Laëlia qui est spécialiste. Pourquoi pas transfuge de classe? Comment vous argumentez?
Moi, j'ai arrêté de me décrire comme transfuge de classe le jour où j'ai entendu Kev Adams dire que vraiment ça avait été trop dur de grandir à 5 dans un 90 mètres carrés de gamme. En effet, en fait, c'est open bar, donc tout le monde peut être transfuge de classe. Et par ailleurs, j'ai aussi mais je pense que là, Elia en parlera mieux que moi, mais j'ai un problème avec la manière dont les choses se sont déplacées, c'est-à-dire entre ce qu'a écrit Annie Ernaux, ou plus récemment Nicolas Mathieu, tout ça, il y avait un vrai récit d'extraction sociale, et là, aujourd'hui, ça a glissé vers un truc un peu libéral de self-made man, c'est-à-dire qu'il s'agit davantage de dire moi en fait j'étais hyper digne et puis vraiment je m'en suis sortie à la force du poignet, etc. Et c'était pas l'objectif, il me semble, de ces récits là d'en faire un truc très individuel. Et surtout pendant qu'on est ébahi comme ça devant ces trajectoires individuelles, on oublie que à la télévision il y a que 3% d'ouvriers qui sont interviewés, par exemple. Donc la formule est un peu simple, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est ça ce qui me dérange un peu.
Et oui. Et il y a aussi donc ce genre de considération dans La Gosse de Nadia Dame, avec ce style qu'on adore, paru chez Grasset. Nadia Dame, derrière vous, il y a un certain Frédéric Fromet, car on finit tous les grands dimanches soirs en chanson. Oui. Mon cher Frédéric, qu'est-ce que vous avez réservé aux Alsaciens et à tous nos auditeuristes dans toute la France?
Bonsoir, merci. Alors, allez savoir pourquoi j'ai choisi ce sujet, la discrimination capillaire au travail. J'ai lu qu'un patron avait déclaré à sa salariée, très frisée, « Rentre chez toi, changer de coupe. » Ramener la coupe à la maison. Allez les cheveux, allez cheveux crépus, pas question. Allez les cheveux, allez ramener la coupe à la maison. Allez les cheveux, allez les dreadlocks, c'est non. Allez les fachos, allez. Un petit brushing chez Jean-Louis David. Raccourcissement de la frange chez Jacques de Sanche. Balilage coulot de ciseaux chez Franck Provost. Va dépenser tout ton smic chez le coupe-tif. Mais ne reviens pas coiffé comme un footballeur. Ramenez la coupe à la maison. Allez les cheveux, allez les rastas, pas question. Allez les cheveux, allez ramenez la coupe à la maison. Allez les cheveux, allez. Un chignon, allez les fachos, allez. Bouge tes cheveux comme Valou, Valou Pécresse. Lisse tes cheveux comme Marlène Schiappa. Une pensée pour Alain Juppé.
c'est pour Ciotti. Non, là, c'est beaucoup trop. Ramenez la coupe à la maison. Allez, les cheveux, allez. Ni trop bouclé, ni trop long. Allez, les cheveux, allez. Un petit serre-tête, c'est pratique. Allez, les cheveux, allez. On n'est pas chez les beatniks. Allez, les fachos, allez. Soigne ta mèche comme Laurent. Laurent de la housse. Fais le Playmobil comme David. David Pujadas. Le catogan, ça scène. Francis Lalanne, la coupe mulet, ça c'est non, on n'est pas chez les tuches, les bigoudis, ça c'est non, on n'est pas chez mamie, interdiction de la choucroute, sauf à Strasbourg, ramenez la coupe à la maison, allez les cheveux, allez, shampoing, décoloration, allez les cheveux, allez, tout le monde à l'unisson, allez les cheveux, allez, comme dans un camp de concentration, allez les fachos, allez, avec cette discrimination. Allez les cheveux, allez, c'est le ridicule. J'ai l'impression que nous osons friser.
Merci Frédéric Fromet. Merci Frédéric. Donc vous pouvez revoir toutes les vidéos sur la chaîne YouTube. Merci à David Abécassis et Martin Guénard à la maintenance pour ce déplacement à Strasbourg. Merci à l'Auditorium de Strasbourg, à la régie Didier Coudry. Son de l'auditorium Olivier Weber et le plateau Lionel Rungus. Merci beaucoup à la ville de Strasbourg de nous avoir accueillis si chaleureusement. Merci Nadia Dame. Merci beaucoup à Dirty Deep aussi et Cyril Knopfel pour le stand-up. Et merci à toute l'équipe qui prépare cette émission. Alexia Lacour, attachée de production, réalisation François Audouin, rédaction en chef d'orchestre Ramzi Assadi. Co-écrit avec Xavier Nau et Romain Forgeor. Merci à Mathilde Sour qui se charge de l'édition de nos pages web. Sandrine Brechaud, notre chargée de production ici à Strasbourg. Merci à Gaëlle Michel et Valentine Guédiguian pour les opérations extérieures. Merci à Antoine Blin, Lucas Héral qui nous accompagne. C'était Juliette Arnaud, Émeric Lomprey, Laëlia Véron, Douli, Joubaka, Walidia, Laurence Bibot et Frédéric Fromet.
Et Charline Vanhoenacke.
Le petit bateau de Camille Cremier et le masque et la plume avec Rebecca Manzoni. Je vous dis à dimanche prochain en direct et en public.